Retrouvez votre interview exclusive sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Jean-Christophe Roger. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui ?
Bonjour Nathalie, c'est un grand honneur d'être enfin sur Choc FM. Merci beaucoup de cette occasion. Merci.
Bah écoute, moi je suis ravie que tu sois là. Comment ça se passe d'ailleurs ce voyage, non pas en charabie mais à Toronto ?
Bah c'est formidable, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de préparation qui a été fait par Mélanie du consulat et toute l'équipe. Ce qui fait que vraiment je rencontre des enfants, je rencontre des étudiants, je rencontre des professionnels. C'est des échanges vraiment très riches, très respectueux. C'est super.
Première fois au Canada ?
Hyper content. Non, je suis déjà venu pas mal de fois, mais par contre, c'est la première fois à Toronto.
Ah, bah bienvenue alors.
Ouais, bah merci.
Alors, avant de parler de ce film Ernest et Célestine, le voyage en charabie, dont on a parlé un petit peu hors antenne, que j'ai personnellement adoré, j'ai trouvé ça canon. Mais est-ce que tu pourrais, Jean-Christophe, te présenter et rappeler un petit peu ton parcours, justement, pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore ?
Alors, je suis réalisateur de films d'animation, donc j'ai réalisé à peu près 9 séries d'animation, production française et coproduction, et donc 3 films. Donc le dernier, c'est Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Et je suis à la base dessinateur. J'ai quitté la maison familiale à 17 ans avec le rêve de vivre du dessin. C'était un rêve tout à fait hypothétique, mais qui finalement s'est réalisé. Et donc j'ai été animateur, storyboarder, je suis aussi scénariste, j'ai fait un peu tous les postes et donc je fais plusieurs choses un peu en même temps. Mais actuellement je suis réalisateur et je développe aussi des projets personnels.
Alors justement, ce film d'animation, Ernest et Célestine, le voyage en charabie, il faisait partie de la sélection du festival Ciné Franco Jeunesse ici à Toronto. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce film et peut-être également nous rappeler à quel public il est destiné ce film ?
Alors c'est un film qui est vraiment familial parce que le thème du film, ça parle vraiment de la famille. Parce que Ernest, en fait, c'est un ours immigrant qui a quitté son pays natal, le pays des ours lointain de charabie, à cause de quelque chose qu'on va découvrir au cours du film, mais qui est en réalité un conflit avec son père, avec ses parents et avec son pays, qui l'empêche de réaliser son rêve profond. Donc il y a une espèce de dilemme entre les lois du pays et puis également son père qui veut qu'il devienne un juge.
Ouais, l'attente familiale surtout, c'est ça, ouais, la pression familiale. Ouais.
La pression familiale, donc il fuit cette pression pour vivre de la musique, son rêve. Mais Célestine, son amie chère, en se dépêchant en fait, elle casse son violon et son violon c'est un violon. C'est un Stradivarius.
J'ai adoré d'ailleurs.
Voilà, qui est un violon très spécial.
Qui fait un clin d'œil monumental à Stradivarius, les vrais.
Voilà, mais du coup, il n'y a qu'en charabie que quelqu'un peut réparer ce violon. Et il devient tellement déprimé que Célestine ne peut pas supporter de le voir si triste. Et elle veut réparer le violon. Mais comme Ernest ne veut pas entendre parler de la charabie, il ne veut pas retourner chez lui pour une raison qu'on ne connaît pas au début. Mais donc Célestine se lance à l'aventure et elle va obliger en fait Ernest à retourner sur ses pas et à régler son problème profond, qui est ce problème d'entente familiale, mais qui est également devenu le problème de toute la charabie puisque la musique a été interdite. Et donc Célestine va devoir aider Ernest à résoudre son problème profond familial, mais également à libérer la charabie. Donc c'est cette petite souris qui sauve le monde.
Ouais,
sauve son ami, mais qui sauve aussi...
Comme quoi, c'est pas la taille qui compte, parce que c'est une toute petite souris qui fait face à un gros ours et à plein de gros ours, là, dans ce film.
Exactement.
Et au final, comme quoi, c'est un petit peu... ça montre peut-être aussi aux enfants, parce que les films d'animation, on pense quand même en premier aux enfants. Et ça prouve aussi que, peu importe l'âge, peu importe sa condition physique ou quoi, si on a des rêves en tête et qu'on est déterminé, bon, on peut faire plein de choses, en fait.
Voilà, parce que c'est un film où on essaye d'avoir un équilibre entre des scènes de comédie, d'humour, d'action. C'est aussi de la grande aventure, parce que c'est un voyage dans un pays imaginaire.
Avec différents décors aussi, on passe dans la neige, on passe au soleil, il y a plein de choses quand même.
Voilà, et donc il y a un équilibre entre des scènes d'émotion, parce qu'il y a cette amitié entre Ernest et Célestine qui est au centre de toutes les histoires d'Ernest et Célestine, mais là, qui est vraiment au centre de l'histoire. Mais également, il y a toute cette émotion, ces rapports familiaux, il y a tout un aspect, mais qui est traité avec, avec humour. Et, donc voilà, on essaie d'avoir un équilibre entre un fond et une forme attractive. Voilà.
Bah ouais, moi je souris parce que j'ai trouvé ça vraiment cool, même les dialogues, j'ai trouvé ça drôle. Franchement, c'est drôle parce que quand on se lance à mon âge, entre guillemets, dans un dessin animé, dans un film d'animation, on se demande toujours si ça ne va pas être un petit peu trop branché pour enfants. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment un film familial au final. Les parents ne vont pas être là en se disant « c'est un peu longuet cette affaire ». Je trouve qu'on y prend du plaisir, mais moi, enfin, le film, je crois, il dure 1h16 de tête. J'ai trouvé ça super rapide. À la fin, j'étais là « oh, bah, c'est déjà fini oh. ». Mais au final, ce film, ce n'est pas le premier Ernest et Célestine que tu signes, en tout cas, en tant que réalisateur. C'est le deuxième. Il y avait eu Ernest et Célestine en hiver, en 2016. C'était quoi le déclic pour toi, ou en tout cas la motivation que tu as eue pour re-signer pour un second film?
Alors, en fait, Ernest et Célestine en hiver, à la base, c'était une série télé. C'était, en fait, France Télévisions qui voulait qu'il y ait une collection de films d'Ernest et Célestine. Donc, il y a eu 26 épisodes.
Pour rendre hommage aussi à l'auteur d'Ernest et Célestine qui était décédé en an 2000, il me semble.
Oui, oui, c'est ça, Gabriel Vincent. Donc, les producteurs de Folivari m'ont proposé, avec Julien Cheng, qui est un jeune réalisateur, de co-réaliser ensemble cette série. Et en fait, un distributeur de cinéma a vu, en voyant les épisodes, a eu l'idée et s'est lancé dans l'aventure de distribuer au cinéma quelques épisodes sous la forme d'un film, qui a en plus vraiment bien marché au cinéma. Donc à l'origine, c'est une série qui est devenue au cinéma. Et donc ce succès a, je pense, et puis également la réussite de collaboration entre moi, Julien, et puis l'équipe de production, a fait que les producteurs ont décidé de nous confier ce long métrage qui arrivait. Quoi.
Comment ça se passe, Jean-Christophe, la réalisation d'un film d'animation? Parce qu'on se doute qu'il y a quand même une démarche un peu différente d'un film où il y a des acteurs, un plateau de tournage, et là on parle avec un ours et une petite souris. Est-ce que la démarche, elle est différente, ou au contraire, d'un point de vue travail de réalisateur, c'est exactement la même chose?
Non, c'est vraiment différent, parce qu'en fait, en animation, il faut tout faire. Beaucoup de choses clés sont faites en fait au début. C'est-à-dire que dans un film en prise de vue réelle, le montage est fait à la fin, avec beaucoup en général de matière, de rush, et on peut modifier l'histoire, on peut faire pas mal de choses à la fin. Mais en animation, le coût de l'animation est vraiment élevé, on dessine image par image, donc on fabrique exactement ce qu'on a besoin. Donc en fait, il faut construire une maquette du film très précise en amont. Donc toutes les questions de narration, de rythme, d'équilibre entre les voix, la musique, l'image, tout cet équilibre doit être vraiment comme une horloge, en fait, bien construit, en amont. Donc ça prend en fait une toute petite équipe de personnes. On est vraiment une poignée à travailler pour préparer la maquette de ce film. Et après, toute une équipe arrive pour fabriquer. Mais après, on ne peut pas se dire, on va tout changer.
Ouais, une fois que la trame est prête, au final, on
suit
cette
trame. Je vais faire comme ça, finalement, je fais comme ça. Non, en fait, il faut vraiment se poser toutes les questions très tôt et régler ça au moment de ce qu'on appelle l'animatique. En fait, on passe à peu près une année pour adapter le scénario, dessiner le storyboard, enregistrer les voix, mettre des musiques maquettes et faire vraiment quelque chose qui va ressembler. Alors, c'est des dessins noirs et blancs à la main qu'on fait comme ça, mais en fait, ce qui est établi, c'est vraiment la maquette de ce qui sera fabriqué ensuite.
Je rebondis justement sur les dessins, parce que moi, je suis née dans les années 90, et les dessins qu'on retrouve dans Ernest et Célestine, c'est un peu les dessins que moi, j'avais avant dans mes dessins animés à moi. C'est-à-dire pas que de la 3D à fond, les personnages, je sais pas, il y a des traits de dessin qui partent. C'est pas comme un truc, on dirait, qui a été tout formatisé par un ordinateur. J'ai l'impression qu'il y a quand même la main de l'artiste, en fait. J'ai l'impression de sentir ça, limite, de l'aquarelle sur certains paysages, les couleurs, comment c'est fait. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'était une volonté justement de garder ce côté un petit peu, pas vintage, mais loin des trucs un peu, on va dire, Pixar et compagnie, où les trucs, ils ont changé un peu, je trouve, les dessins animés maintenant, tu vois.
Ben, en fait, c'est vraiment aussi un héritage, c'est-à-dire que l'art de Gabrielle Vincent, qui était également une peintre, c'était elle, ce qu'elle dit, c'est quelqu'un qui parlait très peu, qui faisait pas d'interview, qui aimait pas la publicité, donc c'était vraiment quelqu'un de solitaire, qui travaillait pour, ce qu'elle dit, c'est que vraiment capter les émotions et redonner des émotions aux gens en voyant ses dessins, c'est toute sa vie en fait. Donc en fait, à travers ses dessins, c'est un dessin, mais on ressent l'amitié, les rapports qui existent entre des êtres. C'est quelque chose qui est émouvant, comme on voit un tableau de Van Gogh, Rembrandt, tout ça. C'est pas fait par ordinateur, mais il y a quelque chose qui nous touche.
Chacun différemment, en
voilà,
plus.
Voilà, ouais. Il y a cette dimension vraiment artistique qui a un impact sur le spectateur, qui touche le cœur parce que ça traduit quelque chose de la vie d'une certaine façon. Et c'est ça l'essence un peu de l'art de Gabrielle Vincent, et c'est ça à quoi on essaie d'être fidèle, c'est-à-dire qu'il y ait aussi, c'est pas parce que les enfants sont plus petits, qui ne sont pas touchés par une émotion artistique.
Oui, ou qui ne peuvent pas être sensibles à tout ça, en fait.
Qui ne peuvent pas être sensibles à quelque chose qui est artistique. Donc, c'est une dimension de ce travail qui est d'essayer de véhiculer une émotion à travers le dessin, à travers l'animation, mais des choses qui sont faites par des artistes, en fait, parce que l'équipe d'animation, c'est vraiment des artistes, quoi.
Dans ce film, justement, d'animation, Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie, même le nom, moi, je le trouve sympa, ça invite au voyage, justement. Puis, comme on est ici au Canada, on vient tous un peu d'un endroit et on a tous immigré, en fait, ici. Seules les vraies familles autochtones sont chez eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on est tous sur leur terre. On a tous voyager, on a tous quitté notre endroit pour une raison X ou Y. Comme tu l'as dit, on l'apprend au fur et à mesure du film. Pourquoi Ernest, il a décidé de partir de sa maison? Pourquoi il a décidé de pas revenir aussi pendant toutes ces années? On a tous des fois des histoires, tu parles avec des gens qui sont, je sais pas, qui viennent de n'importe quel pays, de Belgique, du Bénin, de peu importe. Ils ont tous des raisons de pourquoi ils sont venus. Ils ont tous des raisons de pourquoi ils y vont pas aussi souvent qu'ils le voudraient peut-être. Là, dans ce film, on a l'impression que la Charabie, ça va être compliqué, ça va être horrible, à ce qu'on entend de Ernest, il veut pas y aller. Puis en fait, une fois qu'on passe, bon, je spoil un petit peu, mais une fois qu'on passe cette tempête de neige, on arrive dans un endroit qui a l'air magnifique, rempli de soleil, c'est très beau, on dirait une terre promise et tout. Et puis il y a ce problème de, bah en fait, on fait pas la fête en Charabie. En fait, c'est un peu un système totalitaire, la Charabie. Il y a une note, donc tu disais la musique est interdite. Ouais, enfin presque. Il y a une note, on a le droit de jouer le do. Alors le do, c'est pas la plus sympa des notes, puis c'est un peu redondant, au bout d'un moment donné, do, 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 do. On voit un concert de do, à un moment donné, c'est pas un concert où on va prendre des tickets en masse. Mais du coup, je me disais, est-ce qu'il y a un message caché quelque part? Parce que je sais que dans les films d'animation, et surtout destinés à la jeunesse, il faut savoir lire entre les lignes. Nous, en tant qu'adultes, on voit des choses qu'en enfant, peut-être qu'on voit peut-être pas, mais il y a tout le temps des messages cachés. Ce serait lequel, selon toi, Jean-Christophe, dans ce film?
C'est-à-dire que c'est un monde où il y a des limitations, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a des limitations. Par exemple, Ernest, son père ne veut pas qu'il devienne musicien, donc il y a des limitations déjà au niveau de la structure familiale, au niveau de la société. Soit il y a des interdits, mais même s'il n'y a pas d'interdits, à la jeunesse, on dit « Ah bah tu veux faire ça ? Ah oui, mais tu rêves, c'est pas possible, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de... »
C'est comme ça, puis c'est pas autrement.
C'est comme ça et c'est pas autrement.
C'est le slogan du pays.
C'est-à-dire que c'est pas possible, c'est pas réaliste, c'est pas tout ça. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur les limitations. Et nous, le message un peu qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a un potentiel chez les gens qui est immense. Et c'est ça qu'il faut stimuler. Et pour que la société se développe, soit heureuse, ça dépend beaucoup de la confiance que la jeunesse peut avoir en elle, dans son potentiel. Dire que c'est impossible, c'est bloquer en fait les capacités.
La créativité aussi.
La créativité des enfants, des jeunes, et encourager cette créativité, cette confiance en soi, c'est essayer d'ouvrir le potentiel de chaque personne qui est finalement très grand. Et je pense que l'évolution de la société dépend aussi beaucoup de la jeunesse et de sa capacité à créer des choses nouvelles, à résoudre aussi des problématiques qu'il y a maintenant. Donc nous, un peu ce message pour moi, c'est vraiment que une personne est capable de construire son chemin et d'écarter ses limitations et également de changer l'environnement dans lequel il vit. C'est ce que Ernest et Célestine font, mais c'est aussi, je pense, ce qu'on peut faire.
Puis aussi montrer que des fois, se battre pour ses idées, ça vaut la peine, parce qu'on voit aussi ce petit personnage de Mifasol qu'on apprend à connaître un petit peu dans le film et qui... De son côté rebelle, de son côté, je vais pas lâcher cette affaire de musique, ça me tient à cœur, je vis pour ça. Et si je peux, par le chant de 2-3 oiseaux, répandre un petit peu ces notes, autres que le fameux Do, justement, on va pouvoir le faire. Et justement, je trouvais que ce côté un petit peu, battez-vous pour vos idées, n'ayez pas peur d'aller contre le mouvement. Si tout le monde pense que la musique, c'est fini et que même les oiseaux, ils n'ont plus le droit de chanter, mais qu'au fond de ton cœur, toi, tu chantes, tu cries, tu as envie de vivre ta vie comme tu le veux, bats-toi un peu pour ça. Et je trouvais qu'il y avait un peu de ça aussi dans le film.
Oui, parce qu'en fait, à partir du moment, et moi c'est aussi mon expérience de vie, en fait, si c'est ce thème, c'est aussi parce que c'est un peu ma vie, à partir du moment où on détermine qu'on veut faire quelque chose, nos capacités intellectuelles, notre énergie, en fait, il y a toute une force qui existe en nous qui peut se mettre en œuvre pour réaliser cette chose, à partir du moment où on décide de le faire. Si on se dit que c'est pas possible, qu'on va pas y arriver, que en fait finalement cette énergie,
bâtons dans les roues tout seul.
Elle est pas possible. Donc c'est effectivement un peu cet aspect-là qui sous-tend un peu le.
Ouais, et puis moi, en tant que bonne franco-française, le côté un peu résistance, rébellion, ça me parle forcément. Et j'étais là, moi, je trouve que le personnage de Mifasol dans le film, il est génial, en fait. C'est un peu le cavalier masqué du film. On suit un petit peu à travers tout ça. Je ne vais pas en donner plus parce que je veux que les gens aillent voir le film. Mais ce personnage est vraiment, vraiment hyper intéressant. Et on le découvre de plus en plus au fil du film. Le film, d'ailleurs, il est sorti en France en décembre 2022. Tu as pu également assister aux projections qu'il y a eu ici à Toronto. C'est quoi, en général, les réactions du public ?
Il y a eu... Alors les enfants, j'ai eu vraiment toutes sortes de réactions, mais par exemple des enfants, mais même tout petits, j'ai vu à certaines projections, des enfants genre 4-5 ans qui lèvent la main et ils disent « c'est quoi ta question ? Moi je veux faire ça, moi je ferai ça ». C'est-à-dire tout d'un coup ils se disent « c'est possible, moi je voudrais faire ce métier, ou je voudrais… » C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a… Et puis, alors, des fois, les parents regardent un peu étonnés leurs enfants déclarer qu'ils veulent faire quelque chose dans la vie. Alors, des fois, ce n'est pas toujours le plan qu'ils avaient. Ouais. Alors, des fois, moi, j'ai eu des parents qui sont venus me voir en me disant « on est en train de discuter avec mes enfants » parce qu'après avoir vu le film, en fait, on s'est mis à échanger parce que nous, on leur a dit « il faut faire ça ». Puis finalement, on se rend compte que finalement, ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas ça. Donc, on est en train de discuter.
Puis un peu comme dans le film, en fait. Tu vois, c'est là où tu te rends compte que
comme dans le film.
Dans le film, exactement. Le papa, il veut que le fils y fasse ci, puis la maman, elle préférerait que tu fasses ça. Puis au final, il n'y a pas la place pour l'enfant de choisir réellement ce qu'il veut, en fait.
Parce que c'est finalement comme ça et pas autrement. C'est aussi quelque chose que les enfants, ils entendent.
Ouais.
Donc, ça touche aussi cet aspect-là. Ouais.
Et est-ce que tu as vu des similitudes ou à l'opposé, justement, des réactions complètement différentes entre le public franco-français et le public francophone ici à Toronto ?
Mais en France aussi, les projections où j'ai été, en fait, c'est quand même aussi un public qui est très diversifié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différences. Il y a des gens qui viennent de toutes ses origines. Moi, j'ai fait des projections. Avec ces problèmes de famille, d'interdits familiaux, il y avait des gens qui sont d'origine complètement française. Il y avait des gens qui viennent d'Afrique. Il y avait des communautés musulmanes. Et cette question des rapports dans la famille entre ce que veulent faire les enfants et les parents, tout le monde la reçoit à plein avec sa culture. Mais aussi, ce qui est assez chouette, c'est que, par exemple, lors des questions-réponses, c'est que tous ces gens sont ensemble et dialoguent. Et peuvent dire, ils peuvent donner leur avis et on échange là-dessus. Et c'est vrai que c'est des occasions d'échange. Et j'ai pas vu... Après, il y a des pays où les gens, peut-être, expriment de façon plus directe ce qu'ils pensent. alors que dans d'autres endroits, peut-être, ils sont plus réservés.
Plus nuancé aussi,
peut-être. Un peu plus nuancé, mais j'ai pas vu de différence vraiment notable. Non.
Est-ce que tu as une anecdote par rapport à un retour ou une question d'enfant que tu as eu, mis à part « Oh, moi aussi, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je vais faire tout comme vous. » Un truc peut-être, je sais pas, qui t'a marqué, que ce soit ici ou que ce soit dans les multiples projections auxquelles tu as pu assister pour ce film.
Ben, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bizarre de raconter ça, mais Ernest et Célestine en hiver, c'était avant la guerre en Ukraine.
Ouais.
Et donc, j'ai été invité en Russie pour présenter le film. Et donc, il y a eu des... Et donc, les enfants, cette question de la diversité, ça les a énormément...
Marqués,
interpellés, intéressés. Et donc, j'ai vu des enfants vraiment poser des questions sur leurs rêves et à partir de quand vous avez décidé de réaliser vos rêves. Des enfants qui demandent ce genre de questions.
Genre, à partir de quel âge on a vraiment le droit de rêver pour de vrai ?
Oui, parce que ça touche vraiment le cœur du film, c'est-à-dire que c'est soi-même qui décidons. Quelles que soient les interdictions, c'est quand même soi-même qui décidons de sa vie. C'est notre vie, donc on peut c'est nous qui devons ouvrir, réaliser notre vie. C'est pas... Quels que soient les interdits, ça regarde nous. Et donc, c'est quand même une question qui est dans le film. Et ça m'a touché de voir qu'il y avait des enfants vraiment jeunes qui étaient sensibles à ces interrogations. Moi, à quel moment je peux dire que finalement, je voudrais faire ça avec ma vie ? C'est ce genre de question. Donc, ça m'a touché d'autant plus que du contexte qui est maintenant pratiquement une dictature du pays, que des enfants se posent ce genre de questions, quoi.
Ouais, est-ce qu'on a encore le droit de rêver malgré le pays dans lequel
exactement.
On grandit, en fait ?
C'est ça.
Ouais. Avant de finir cette interview, Jean-Christophe, est-ce que tu as d'autres projets ? Est-ce que tu as du pain sur la planche en ce moment ? Ou tu prends une petite pause entre des films ? Bref, dis-nous un petit peu, c'est quoi ton actualité ?
Je travaille sur une série télé donc, pour les enfants, mais j'ai deux grands projets sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Et il se trouve que ces deux projets, vraiment... En relation avec le Canada, donc un projet de long métrage d'animation qui serait une production canadienne principale, a priori, qui serait peut-être plus canadienne que française.
Plus canado que franco.
Voilà, ouais. Et puis un autre projet qui est hybride, prise de vue réelle et animation avec des enfants, et qui serait peut-être également une coproduction. Donc c'est pour ça que je suis très content d'être ici, et puis de mieux connaître un peu l'écosystème, de rencontrer des personnes, et de bien comprendre... Comment ça fonctionne, parce que j'ai vraiment très envie de travailler maintenant avec le Canada.
Eh bien écoute, au plaisir de te revoir très bientôt. En tout cas, merci d'être passé par chez nous, comme on dit ici. Et puis...
Merci Nathalie.
Eh bien à très bientôt. Alors si bientôt tu reviendras au Canada, fais-nous signe. Comme ça, on organisera d'autres petites interviews tous ensemble.
Ok.
À bientôt Jean-Christophe, merci.